Bienvenue sur cette antenne, vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste qui vous propose aujourd'hui La Voix de l'Espérance, une émission qui vous est présentée par Oscar Miani. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur notre antenne. Encore une fois, soyez les bienvenus à l'écoute de La Voix de l'Espérance, notre émission quotidienne de 30 minutes en français, qui vous est présentée par Oscar Miani et préparée avec toute notre équipe. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. Vous êtes toujours très nombreux à nous écouter sur cette antenne ou encore en podcast, ou encore même avec votre téléphone. Bienvenue pour notre émission Parole solidaire. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Paul Juncker. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur de ADRA Luxembourg, c'est l'agence de développement et de secours adventiste. Et aujourd'hui vous venez nous parler d'un projet que vous soutenez en Éthiopie, dans le district de Tok-Kuté, si je prononce bien. J'en sais rien en fait. Oui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est une région très pauvre. Hein,
Oui, ça c'est juste. C'est une région vraiment très très pauvre. Et deux tiers vivent seulement avec 1,40$ par jour.
Ça c'est sous le seuil de pauvreté. Hein.
C'est le seuil de pauvreté. Mmh, oui. Mmh.
Donc c'est deux tiers de la population, hein, vous dites.
Deux tiers. Mmh. Et c'est encore un tiers qui est encore en dessous.
D'accord. Deux tiers sont juste au seuil de la pauvreté un tiers sous le seuil de la pauvreté.
Parce que si on prend l'index du développement, là, ils sont à la 173e place.
Sur combien ?
Sur 200 pays.
Ah oui, donc ils sont vraiment tout en bas de la liste. Hein.
Oui.
Et alors donc, qu'est-ce qui se passe dans cette région ? Qu'est-ce que ADRA projette de faire ?
Mais là, nous avons depuis quelques années où nous soutenons un orphelinat.
Oui.
C'est un orphelinat qui a été créé suite à une initiative privée dans l'année 2000. Et depuis lors, ça a grandi grâce à ADRA, parce que c'est un projet ADRA Suisse.
D'accord.
C'est eux qui sont sur place depuis des années, ensemble bien sûr avec ADRA Éthiopie.
Et alors donc, cet orphelinat a une capacité d'accueil de combien d'enfants ?
Pour l'instant, il y a 80 l'enfant. Et puis, ils ont aussi un internat à côté du bâtiment. Oui. Là, il y a environ 300 enfants qui viennent chaque jour.
Donc, ça commence à faire beaucoup. Hein. 300 plus 80, ça commence à faire beaucoup.
Voilà.
Il y a une spécificité, c'est qu'ils accueillent aussi des enfants handicapés. Hein.
Exactement. Mmh. Pour l'instant, ils ont 45 enfants handicapés. Parce qu'en Éthiopie, souvent, les enfants qui ont des handicaps, ils sont délaissé.
D'accord. Pour quelle raison c'est mal vu par la société d'avoir un handicap ?
Oui, souvent et quelquefois ils disent voilà, c'est une malédiction de Dieu, alors ils sont rejetés par la société.
D'ailleurs, il y a une famille hein, qui témoigne sur cette situation qu'ils ont vécue avec une enfant handicapée.
Oui, j'ai ici une petite histoire. C'est une petite fille qui s'appelle Leshia.
Oui.
Elle a 12 ans. Et lors de la naissance, les jambes étaient déformées et elle pouvait seulement marcher avec des grandes douleurs. Et voilà, le père était aussi, c'est-à-dire plutôt les voisins, ont dit que c'est une malédiction de Dieu et voulaient que pour vendre ou pour trouver quelqu'un qui peut prendre cet enfant en charge. Et c'est maintenant l'orphelinat qui s'appelle New Hope qui a pris cet enfant en charge.
Donc en fait, c'est terrible quand même d'en arriver à ces situations.
Oui, c'est vraiment terrible, oui. Mm-hmm.
Et donc, cet orphelinat, New Hope, accueille ses enfants dans ces conditions. Il y a l'orphelinat pour les orphelins, donc, et puis il y a l'internat pour les élèves qui suivent les études.
Qui viennent de l'extérieur, oui.
D'accord.
Et ça sont aussi des enfants qui n'ont pas la possibilité pour aller dans une école.
D'accord. Donc c'est vraiment ciblé vers les enfants qui sont complètement délaissés.
Oui, des familles extrêmement pauvres aussi. Ah. Oui.
Et alors, quel est le projet d'ADRA Luxembourg ? Donc si j'ai bien compris, c'est un projet ADRA Suisse à l'origine.
Oui.
Mais ADRA Luxembourg s'est greffé à ce projet ?
Oui. Nous avons soutenu ce home déjà depuis plusieurs années, mais c'est un orphelinat qui fonctionne seulement sur des dons.
D'accord.
Et ça, c'est
donc les enfants ou les familles ne payent rien pour être reçus et hébergés, nourris.
Non, ça fonctionne seulement, c'est des dons.
Oui.
Et maintenant, comme Adra a toujours un peu l'idée que les institutions doivent quand même se supporter un peu eux-mêmes,
oui.
Alors on avait une idée de les aider.
D'accord. Et alors, quelle est cette idée?
Et l'idée, c'est de créer une ferme avec des poules.
D'accord.
Et avec les poules, ils peuvent vendre les œufs et comme ça, ils peuvent se procurer une deuxième existence.
Alors, c'est une ferme qui sera complètement orientée vers l'élevage de poules, uniquement l'élevage de poules.
Exactement.
Mais alors, c'est un gros projet, hein, je crois, parce que c'est pas, on parle pas de 10 ou 100 poules. Hein,
Non, ici, c'est un grand projet, on parle de 5000 poules.
5000 poules.
Oui.
D'accord. Et donc, il faudra... gérer toute cette mise en place, hein, ça va être un projet important.
Oui, et là, ADRA, c'est gens sur place pour le faire.
Oui, parce que on a parlé d'ADRA Suisse, ADRA Luxembourg,
oui.
Mais sur place, il y a aussi ADRA Éthiopie, hein,
oui,
qui
c'est encore un troisième partenaire
qui là, pilote finalement qui, la mise en place.
Exactement, c'est ADRA Éthiopie qui est sur place et qui surveille et qui suit ce projet.
Et alors, quels sont les besoins pour mettre en place ce projet? Il doit y avoir une infrastructure à mettre en place.
Oui, ADRA Luxembourg s'occupe surtout maintenant pour trouver les poules, ou trouver l'argent
Pour acheter des poules.
Pour acheter les poussins.
D'accord.
Et puis, il faut tout, des produits, par exemple des câbles électriques, des chauffages, des mangeoires pour les poules, etc.
Alors donc, on rappelle que l'objectif de la mise en place de cette ferme et d'avoir ces 5000 poules, c'est pour vendre les œufs, hein, et que ça fasse des rentrées financières pour l'orphelinat et l'internat.
Et pour ça, l'orphelinat va recevoir une sécurité d'existence en plus, hein,
d'accord.
À côté des dons qu'ils vont recevoir régulièrement.
Comment ça se passe ensuite? C'est ADRA Éthiopie qui, sur place, contrôle et assure le suivi pour vérifier que tout fonctionne correctement?
Oui. Dans les projets ADRA, il y a toujours quelqu'un qui suit le projet.
Mm-hmm.
Et normalement, c'est toujours la ADRA qui est sur place. Et plutôt ADRA Suisse, ADRA Luxembourg sont ceux qui fournissent les moyens financiers.
Et alors donc, vous êtes à la recherche d'argent pour soutenir ce projet. Alors dans le mois précédent, quand nous avons parlé de cet autre projet au Cameroun,
oui.
Vous nous disiez qu'il vous fallait trouver de l'argent. Là, il vous faut encore trouver de l'argent pour ce projet en Éthiopie. Comment vous faites pour rassembler autant d'argent?
Oui, là aussi, on a toujours des donateurs qui donnent de l'argent. Et surtout quand il s'agit d'un projet pour des enfants, on trouve de l'argent.
D'accord.
Ce sont des gens qui sont susceptibles d'aider des enfants.
Alors donc, vous allez vous tourner une nouvelle fois vers vos donateurs.
Absolument.
Pour qu'ils puissent soutenir ce projet en Éthiopie, et notamment pour cet orphelinat et cet internat.
Et on va lancer aussi une action, maintenant par des flyers et des lettres,
oui.
Des mailings, pour trouver des donateurs.
Donc, une nouvelle fois, on peut aussi faire... appel à la générosité de nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Ils peuvent soutenir aussi, eux, à leur manière, ce projet que vous voulez soutenir en Éthiopie par des dons aussi. Et donc, c'est simple de faire un don à ADRA Luxembourg.
Oui, ça serait formidable de recevoir des fonds,
oui.
Et des dons. Parce qu'avec 10 euros, on peut déjà faire quelque chose pour ce projet.
Donc voilà, on n'a pas besoin de donner des grosses sommes d'argent,
non, non.
10 euros, c'est déjà bien.
Donc par exemple, avec 10 euros, on peut acheter 10 poussins,
oui.
11 mètres de câbles électriques, des abreuvoirs, etc. Alors avec 10 euros, on peut vraiment aider dans ce projet.
Alors donc, si un auditeur nous entend et souhaite vous donner 10 euros, il se connecte sur votre site internet par exemple,
oui. www.adra.lu, et là, il va trouver notre CCP.
D'accord. Merci beaucoup, Paul Juncker. C'était Paroles Solidaires. On se donne rendez-vous pour notre prochaine émission qui aura lieu le mois prochain. À bientôt.
Ok. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Oh. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Oh, perfect love, all human thought transcending, lowly we kneel in prayer before thy throne, that theirs may be the love that knows no ending, whom thou forevermore dost join in one, whom thou forevermore dost join in one. Grant them the joy which brightens earthly sorrow, grant them the peace which calms all earthly strife, and to life's day the glorious unknown morrow that dawns upon eternal love and life, that dawns upon eternal love and life.
Vous écoutez la Radio Mondiale Adventiste, votre émission La Voix de l'Espérance, qui vous est présentée par Oscar Miani, comme chaque jour. Pour l'heure, c'est un moment de témoignage que nous vous proposons pour poursuivre cette émission. C'est vous l'histoire.
C'est vous l'histoire.
C'est vous, votre histoire. Votre histoire. Votre histoire compte.
Le sport, c'est très proche de l'évangile quelque part, parce que l'évangile nous encourage à persévérer, à aller de l'avant, nous encourage à nous relever quand on est tombé, il nous encourage à aller jusqu'au bout. C'est un encouragement pour la vie qui n'est pas facile.
Défis sportifs et découverte de la foi en Dieu sont au menu de C'est vous l'histoire aujourd'hui. Bonjour, Pierre Amet est notre invité du jour. Infatigable sportif retraité et non pratiquant, même s'il a dépassé l'âge légal de la retraite, Pierre Amet a été ingénieur, pasteur, voyageur. Il est toujours un peu de tout ça d'ailleurs quand ses différents projets lui en laissent le temps. L'homme au regard bleu ciel et aux cheveux d'argent s'est livré au micro de Christine Raymond en parlant de sport évidemment et de la Suisse, son camp de base depuis toujours.
Un métier que j'aurais pu faire, c'est skieur alpin professionnel. Parce que tout au long de mon enfance et de ma jeunesse, j'ai commencé de skier dès l'âge de 4 ans. Et j'ai consacré, je pourrais dire, toute ma vie jusqu'à 18 ans au ski alpin. Jusqu'au niveau même de la sélection pour les jeunes espoirs suisses. Et c'était mon rêve, voilà. Je visais les Jeux Olympiques, oui.
Alors, une passion du sport qui est restée, on peut dire, une constante hein, dans ta vie.
Oui.
Est-ce que tu étais fait pour la vitesse? Il fallait que ça bouge?
Absolument. Il fallait que ça bouge, que ça avance, que je vois du paysage. Et puis, je dirais que j'essaye d'atteindre des performances, des résultats. Ça fait partie de mon ADN. Je suis resté sportif, bien sûr. Je fais du vélo de course, de la montagne. Et quand je me dis, voilà, je suis à une demi-heure du sommet, je suis un peu fatigué, mais allez, je vais jusqu'au sommet parce que finalement, quand je suis à mon bureau, quand je prépare des cours ou des conférences, des fois, il faut aussi se dire au bureau, allez, on va jusqu'au sommet. Donc, c'est un peu une discipline de vie, c'est quelque chose, mais sans que ça soit un mauvais compétiteur. J'aime jouer aussi à plein de jeux. Une fois avec un cousin, je me souviens, j'ai perdu 50 fois à un certain jeu. Il était étonné que j'aie encore du plaisir à jouer, mais au fond, je suis dans la logique participer sans forcément gagner.
Alors, des études d'ingénieur,
un métier que tu as exercé plusieurs années dans la mécanique, dans la technique, hein,
oui,
c'est ça?
Oui, c'est ça, voilà.
Et pour répondre à une vocation, tu t'es lancé avec ton épouse Jeannette dans des études de théologie. Répondre à une vocation, est-ce que tu peux nous expliquer ça?
Oui, répondre à une vocation. C'est vrai que jusqu'à l'âge de 18 ans, j'étais croyant comme la majorité des personnes, c'est-à-dire probablement que Dieu existe, l'histoire de Jésus, pourquoi pas, mais aucune relation personnelle, je dirais, avec ce Dieu d'amour, avec ce Seigneur qui a donné sa vie. Et voilà, pour la petite histoire, j'ai commencé de fréquenter une fille qui était, elle, très engagée dans la foi, et donc elle m'a amené dans une des rencontres de jeunes pour chrétiens, et là, c'est vrai que je peux dire, c'est comme une révélation qui est entrée dans ma vie. C'est difficile à dire, mais j'ai saisi au travers de témoignages, notamment d'une missionnaire qui rentrait d'Angola. Ça a touché mon cœur. Et le soir, je suis rentré là dans ma chambre et tout simplement, je me suis agenouillé et j'ai dit, Seigneur, je crois que tu es vivant. Je veux bien continuer le chemin avec toi. Et là, c'est comme un feu qui est descendu dans mon corps. J'avais plus l'impression d'être dans ma chambre. Donc ça a été extrêmement fort. Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais pu douter un instant que Dieu n'existait pas.
Ça n'a jamais, jamais quitté le fond du cœur, le fond
jamais,
de l'être.
Jamais. J'ai vécu quelque chose de trop fort. Et puis alors après, bien sûr, j'ai découvert la Bible, la parole de Dieu, j'ai la prière, des amis chrétiens aussi. Donc je vois Dieu à l'œuvre, j'allais dire, constamment dans ma vie, dans la vie des autres. Donc, je dirais, c'est presque maintenant, je pourrais presque dire par la raison que je crois en Dieu, mais c'est d'abord par l'amour et la révélation. Et alors, j'ai continué de travailler. J'ai fini mes études, d'abord d'ingénieur. J'ai travaillé dans l'industrie, constructeur de machines. Et lors d'un camp avec des jeunes, là, le désir de partager la parole de Dieu, de l'annoncer, c'est quelque chose qui est entré dans ma vie et je n'aurais jamais pu résister à cela. C'est un appel intérieur qui a duré des mois. Et donc, j'ai changé d'orientation et avec mon épouse, et ma jeune épouse, effectivement, nous avons été d'abord dans une école biblique pour 3 ans.
Pendant ses 24 années en tant que pasteur, Pierre Amet s'est beaucoup investi pour les jeunes en alliant sport et foi. Comment aurait-il pu en être autrement?
Absolument. En arrivant dans une paroisse qui avait bien des difficultés à réunir du monde, il n'y avait pratiquement plus de jeunes. Là, j'ai eu la conviction que c'est en faisant du sport avec les jeunes qu'on apprendrait à se connaître, qu'on apprendrait à vivre l'effort ensemble, les joies de la nature, la beauté et aussi les difficultés parfois. Donc, nous avons commencé d'organiser une multitude de camps, des camps de ski. On en faisait jusqu'à 3 ou 4 par année. Et puis, on a fait des courses en montagne, bien sûr. On a fait des sports nautiques. On a créé un club nautique. Et c'est vrai que les jeunes, quand on est en contact avec eux, qu'ils voient comment on s'occupe d'eux, par exemple, quand ils ont des difficultés, que s'ils n'arrivent plus à porter leur sac, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui va prendre 2 sacs un temps. S'ils tombent, on les aide à se relever. Voilà, tout cela a créé beaucoup d'amitié. Et je pense que quand on a des liens d'amitié avec une personne, quoi qu'on fasse, il y a quelque chose qui passe, je pense, dans la relation. Mais pour cela, il faut peut-être faire quelque chose ensemble plutôt que d'asseoir quelqu'un sur un banc, faire quelque chose avec, et en partie avec les jeunes. On a vu des centaines de jeunes qui ont trouvé l'évangile au travers de ces camps. Et puis, je dirais, le sport, c'est quand même très proche de l'évangile quelque part, parce que l'évangile nous encourage quand même à persévérer, nous encourage à aller de l'avant, nous encourage à nous relever quand on est tombé, nous encourage à aller jusqu'en haut, jusqu'au bout. C'est un encouragement pour la vie qui n'est pas facile. Donc je dirais sport et foi. D'ailleurs, on avait des camps de ski qui s'appelaient en fait Bible et sport.
On sent chez toi, Pierre, un profond désir de transmettre.
Oui. De tout temps, je crois que j'ai aimé transmettre ce que je savais faire. C'est aussi parce que quand on a de la joie à faire quelque chose, j'ai une joie de vivre intense, formidable. Donc on a envie de transmettre cela. Pas forcément que ça soit une copie conforme de qui on est, mais de dire la vie vaut la peine d'être vécue, même si c'est souvent difficile. Je porte en moi ce qui pourrait être comme une contradiction. Et ça n'en est pas une. C'est-à-dire que j'aime beaucoup être avec des gens. J'aime beaucoup le contact, la société, les fêtes, mais je peux aussi être longtemps seul. Et j'ai vécu dans une forêt chez les Zoulous en Afrique du Sud lors d'un congé sabbatique où j'avais du temps là devant moi. J'étais des semaines tout seul dans une forêt, je voyais de temps en temps quelqu'un. Et puis récemment, pour mon travail, j'ai fait un voyage jusqu'en Laponie. Et j'ai été seul dans mon bus sur des milliers de kilomètres. Donc j'aime la société, j'aime être avec des gens, partager, échanger. Mais j'ai aucun problème à être seul. Voilà, j'ai un peu ce double aspect, à la fois de solitaire, j'en ai peut-être aussi besoin, puisque je rencontre beaucoup de personnes.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans la relation à Dieu, dans la solitude ?
Alors c'est sûr que dans la montagne par exemple, ou dans le désert, où je suis allé si souvent, ou sur la mer, ou sur le lac, j'aime bien naviguer, c'est sûr que dans la solitude, il y a quand même quelque chose d'une proximité avec ce Dieu qui est là, qui est présent. Moi, je me merveille de la nature. Des fois même, si je vois des beaux oiseaux, des fleurs, des fois, si je suis seul, j'applaudis Dieu. Parce que dans une exposition, on applaudit les peintres, les artistes, ou dans un concert, on applaudit les musiciens. Je me dis, mais de temps en temps, sans passer pour quelqu'un d'un peu bizarre, mais si je suis seul, ça m'arrive de dire, Seigneur, je t'applaudis pour ta création, pour tes oiseaux, tes fleurs, un coucher de soleil. Donc j'aime ce contact quand je suis seul aussi dans la nature. Mais alors j'aime transmettre, j'aime amener des personnes justement dans des endroits très beaux. Je pourrais pas vivre tout seul dans ce sens-là. Quand je découvre quelque chose, j'ai envie de le partager.
Passablement parler des jeunes pendant cet entretien. Est-ce qu'il te viendrait comme ça un souvenir d'un moment particulier avec un jeune en montagne ou sur la mer ou sur le lac, je ne sais pas?
Oui, je pense à mon cher ami Bob. Dans les camps de ski, il y a des jeunes qui venaient, comme on appelait cela encore aujourd'hui, de la zone. Et puis c'était trois ou quatre comme ça, et un soir j'ai annoncé l'évangile et j'ai fait parler de l'apôtre Pierre. Et à un moment donné, Pierre justement a dit, quand Jésus annonce sa mort, Pierre dit, mais non, mais c'est pas possible, ça va pas t'arriver, tu guéris des malades, tu ressuscites des morts. Et puis Jésus, il discerne qu'il y a là une tentation, comme la tentation au début du monde. Est-ce que Dieu a vraiment dit, vous n'avez pas bien compris? Et Jésus prononce cette parole un peu étonnante, il dit, arrière de moi Satan. Moi j'ai prononcé cette parole sans m'en rendre compte, et ces jeunes, quand j'ai prononcé cette parole, ils ont été jetés en arrière sur leur siège. Et donc, ils ont vécu quelque chose d'une puissance. Et après, j'en ai assis deux, l'un vis-à-vis de l'autre, de ces gars, de la zone. Et un a dit, moi, je peux pas croire, j'ai fait un pacte de sang avec Satan. Bob a dit, moi, si je fais un pas, je le ferai dans la zone, parce que si je le fais ici dans un camp, c'est un peu trop facile, parce que j'ai peur de retomber dans la drogue et tout cela. Alors, je prie pour le premier, et là, vraiment, une puissance démoniaque s'est manifestée. Ça a été vraiment terrible. Et ce Bob a dit, je suis terrifié, je donne ma vie à Dieu ce soir. Il a fallu quelques années pour qu'il sorte vraiment de la drogue, je l'ai beaucoup entouré, beaucoup, beaucoup. Mais il s'est stabilisé, il a fait un apprentissage, il s'est marié, ils sont parents de trois merveilleux adolescents. Ben c'est vrai que c'est des souvenirs quand même merveilleux.
Et bien voilà, l'équipe de Radio Réveil qui signe cette émission vous dit à bientôt à l'écoute d'un prochain C'est vous l'Histoire. Bye bye.
Vous vous sentez isolé, désorienté, perdu, en recherche? L'IEBC, l'Institut de la Bible par correspondance, vous accompagne et vous propose des cours gratuits à suivre chez vous et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer. Parce que croire, c'est la vie.
Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 80 14 44 77. Si vous voulez nous écouter en dehors de France, eh bien vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh bien, il vous suffit de composer le 1 712 432 9978. Veuillez également noter que vous pouvez nous écouter à 4h30 sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres, à 8h sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9780 kHz dans la bande des 31 mètres. Bien sûr, tout cela en temps universel. Et pour nos coordonnées postales, eh bien, c'est la Voix de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100 77 193, Damary-lès-Lys, Cedex. Votre émission est pour aujourd'hui terminée. Vous écoutiez la Radio Mondiale Adventiste, La Voix de l'Espérance, et vous étiez en compagnie d'Oscar Miani. Je vous donne rendez-vous dès demain à la même heure pour notre nouveau programme. Au revoir. Thank you.